Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Face à la grève du ramassage des ordures, Marseille demande la réquisition des agents grévistes, obligés de travailler sur ordre de la préfecture. Idem à Paris, où les salariés dénoncent une réquisition politique en pleine contestation contre la réforme des retraites, vous l'entendrez.
Une réforme qui est examinée en commission spéciale à l'Assemblée. Hier, la tension est montée entre les insoumis et la majorité.
Comment en prévenir des violences sexuelles dans le sport de haut niveau auprès des jeunes? Le gouvernement lance un audit et vante les mérites d'un fichier qui existe déjà. Nous nous pencherons sur la question.
Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur l'acquittement de Donald Trump. Devant le Sénat, son procès en destitution a pendant 2 semaines mis en lumière les fractures de l'Amérique.
Et puis retour sur la carrière de Kirk Douglas. L'acteur star d'Hollywood est mort hier à l'âge de 103 ans. Dans un quart d'heure, face à notre invité, le ministre Jean-Michel Blanquer, Frédéric Saïd s'intéressera à la notion de société civile en politique. Ce sera son billet à 8h16. Des milliers de tonnes de déchets s'entassent toujours à Paris et à Marseille. Pour contrer cette grève, les incinérateurs, la métropole ex-Marseille-Provence prend la même décision que dans la capitale, à savoir, elle réquisitionne à partir d'aujourd'hui ses agents en grève pour évacuer les ordures qui s'accumulent sur les trottoirs. À Paris, la préfecture a également obligé les employés à reprendre le travail. Un des 3 incinérateurs a donc été réactionné ce jeudi à Issy-les-Moulineaux. Mais dans l'usine voisine d'Ivry, les employés dénoncent une réquisition politique, Damien Mestre.
La chaudière est vraiment à l'arrêt complet.
À l'entrée de l'usine, un détail ne trompe pas, la cheminée ne crache plus une seule volute de fumée. Ici, l'incinérateur est encore à l'arrêt et en attendant, les quelques employés comptent les déchets qui s'empilent dans la fosse.
Pas loin de 15 mètres.
15 mètres d'ordure.
15 mètres d'ordure, on va de haut. C'est pas mal.
Sur ces 3 sites, 6000 tonnes de déchets chaque jour sont traitées. Et face à l'ampleur de la grève, la préfecture vient donc de réquisitionner les employés pour assurer un service minimal. Une mesure légale mais totalement politique selon Julien Lambert de la CGT Énergie. Pour lui, cette réquisition ne sert qu'à casser la grève.
De toute façon, aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement à dire on passe à autre chose, de vouloir passer très rapidement dans l'agenda parlementaire et de vouloir en mettre en œuvre cette loi. Donc, oui, ils veulent mettre le couvercle là où il y a un certain encore regain de conflit, mais il est clair que ça n'empêchera pas la détermination des salariés contre ce projet.
De leur côté, les élus font valoir une mesure sanitaire d'urgence. Pour Paul Simondon, adjoint à la mairie de Paris, ces réquisitions sont nécessaires, même si l'on est contre le projet de réforme.
En aucun cas, ça ne répond à la question sociale qui est posée au gouvernement et qui reste posée. Sur des questions d'urgence sanitaire, nous réclamons à l'État les moyens de régler la situation. Mais bien sûr, la seule réponse à long terme possible, c'est une réponse politique à la crise sociale et à la défiance sociale qui est exprimée par ces mouvements.
Et jusqu'ici, à défaut d'être brûlés, la majorité des déchets étaient envoyés dans des centres d'enfouissement.
C'était un reportage de Damien Mestre à propos de l'un des foyers de la contestation contre la réforme des retraites. Certains de ces salariés seront peut-être dans la rue ce jeudi, répondant à un neuvième appel interprofessionnel. Des rassemblements sont prévus un peu partout en France, tandis que le projet de loi de la réforme des retraites continue son parcours à l'Assemblée nationale. Les débats en commission ont d'ailleurs été marqués hier soir par une poussée de tension entre les députés insoumis et la majorité, chacun se reprochant mutuellement d'abîmer le travail parlementaire. 22 000 amendements ont été déposés, dont 19 000 par les seuls insoumis. Clémentine Autain est députée insoumise de Seine-Saint-Denis.
Le débat parlementaire n'est pas du tout à niveau quand il s'agit de repenser de fond en comble notre régime de retraite. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant d'imaginer qu'on puisse avancer avec des procédures accélérées, avec un débat escamoté, jusqu'à nous enlever des minutes de temps de parole. Enfin, je veux dire, c'est démentiel. On est passé de 2 minutes pour défendre chacun de nos amendements à 1 minute. Tout ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, les débats de la commission sont assez intéressants parce que la Macronie ne semble pas assumer son projet. Il y a une espèce de stratégie de l'édredon. Donc leur méthode est de faire du brouhaha quand on parle, hors micro, pour tenter de nous déstabiliser et ensuite de se taire pour accélérer sans doute le temps de débat et surtout pour éviter la confrontation.
Et voilà ce que répond Olivier Véran, député La République En Marche d'Isère. Il est co-rapporteur du projet de loi.
1 minute par amendement, quand vous voyez la nature de l'amendement, article 1 supprimait le premier mot, article 1 supprimé le deuxième mot, déposé en 17 exemplaires, on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus qu'une minute. Donc on est dans des arguments redondants, c'est pas ma conception du débat démocratique, mais enfin on y est, donc on fait avec. Au bout de 60 interventions identiques de la part de l'opposition, c'est ça l'obstruction, hein. Au bout de 60 interventions identiques, est-ce qu'on répète 60 fois la même chose ? Non. Donc voilà, une fois qu'on a expliqué, donné les arguments, qu'on a communiqué sur l'explication des arguments, qu'on a fait valoir un certain nombre de choses, s'il repose sans arrêt la même question, c'est un peu le film Un jour sans fin. Vous pensez que vous avez fini le travail, que vous avez expliqué, voire que vous avez parfois convaincu, ou que vous avez acté les désaccords, puis le lendemain matin, bam, le réveil sonne, la même chanson et la même journée qui se déroule.
Des propos recueillis à l'Assemblée nationale par Rosalie Lafarge. Moralisatrice, drapée dans ses certitudes, voilà la charge du patron des sports de glace français Didier Gayagué contre la ministre des Sports lors d'une conférence de presse hier. Roxana Maracineanu avait exigé lundi sa démission, un départ approuvé par l'ensemble du gouvernement, selon la porte-parole Sibeth Ndiaye. Depuis une semaine maintenant, les accusations de violences sexuelles dans le patinage français se multiplient, à commencer par celle de l'ancienne championne Sarah Abitbol contre son entraîneur. Une enquête préliminaire est d'ailleurs ouverte. Le patron de la fédération est soupçonné d'avoir tué certains faits, ce qu'il dément. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement souhaite mieux contrôler les adultes qui encadrent des enfants pendant les activités scolaires ou périscolaires. La ministre de la Justice a lancé un audit en ce sens hier. Cela passe notamment par le FIJES, un fichier qui répertorie les personnes ayant été condamnées pour des agressions sexuelles. Jean-Pierre Blimeau.
Le fichier existe depuis 2005, mais il n'est pas assez consulté. Nicole Belloubet envisage qu'il le soit systématiquement lorsqu'il s'agira d'enrôler du personnel salarié ou bénévole dans les associations accueillant des mineurs.
La loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui permet à de nombreuses administrations d'avoir un accès à ce fichier. Mais il est important, au-delà de ce qu'écrit la loi, que cet accès soit réellement utilisé par l'ensemble des administrations.
Dans les administrations, comme l'éducation nationale, mais aussi dans les crèches, les clubs de sport, les écoles de musique, les centres d'apprentis, ceux qui dirigent ces structures peuvent déjà trouver les noms des personnes condamnées pour agression sexuelle. Ils y trouveront désormais celles qui ont été condamnées pour détention d'images pédopornographiques. Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance.
L'objectif de ce gouvernement, c'est qu'il ne faut plus rien laisser passer. Il y a donc une mobilisation générale pour une effectivité plus grande du contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui travaillent auprès de nos enfants.
Au 31 décembre, 84 405 personnes figuraient sur ce fichier qui va devoir permettre de garantir encore mieux ce que le gouvernement appelle le contrôle d'honorabilité.
Et soulignons par ailleurs ce matin cette tribune d'éditrice et d'autrice. Elle dénonce les trop nombreuses violences sexistes et sexuelles dans le milieu littéraire. Elle était jusque-là la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Jusque-là, parce que son mandat pourrait ne pas être renouvelé chez Engie. Un conseil d'administration extraordinaire de l'entreprise doit se prononcer aujourd'hui sur le sort d'Isabelle Cochère, directrice générale du géant de l'énergie. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Que lui reproche-t-on ?
Eh bien, entre Isabelle Cochère et ce conseil d'administration, il y avait une crise de confiance. On lui reprochait son management jugé brutal et certains de ses choix. Le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, avait ainsi critiqué à demi-mot sa stratégie, estimant en décembre dans une interview aux Échos qu'il fallait accélérer la transformation du groupe. Alors malgré un engagement affiché en direction des énergies renouvelables, la performance boursière d'Engie était jugée encore timide par rapport à ses concurrents européens. Le sort d'Isabelle Cochère semblait donc scellé depuis plusieurs mois. Un départ retardé, assure l'État actionnaire qui souhaitait que ça se fasse dans les règles, surtout qu'on touchait à un symbole, la seule femme dirigeante actuellement un groupe du CAC 40. Mais la défense d'Isabelle Cochère ces derniers jours a précipité la à Bercy et au plus haut niveau de l'État. On n'a pas apprécié la communication de ces derniers jours. Interview au journal du dimanche pour défendre son bilan et surtout tribune signée par plusieurs opposants au chef de l'État soutenant la patronne du groupe énergétique. Son remplacement prendra plusieurs mois. Plusieurs noms de femmes circulent déjà, dont celui de la présidente de la RATP.
Et soulignons également Anne-Laure que l'État pense à se désengager du capital.
Oui, il s'en est en tout cas donné la possibilité dans la loi Pacte, lui qui est le premier actionnaire d'Engie avec 24% des parts. Une possibilité qui avait d'ailleurs relancé des rumeurs de démantèlement du groupe, susceptible de faire gonfler le cours de bourse. Isabelle Cochère avait indiqué qu'elle était opposée à tout dépeçage par appartement, stratégie soutenue par les syndicats. Mais une fois parti, en sera-t-il de même ? La question reste posée.
Merci beaucoup Anne-Laure Jumet pour ces précisions ce matin. Partons maintenant à Marseille, où une page se tourne. Jean-Claude Gaudin quitte la mairie après son quatrième mandat. Entré comme benjamin au conseil municipal en 1965, il a a aujourd'hui 80 ans et il ne se représente pas pour les municipales de mars prochain. Bonjour Olivier Martoc.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondant à Marseille où règne une grande incertitude politique. Comme à Paris et à Lyon, on votera en mars par secteur, ce qui signifie en pratique 8 élections puisque la ville compte 8 secteurs, Olivier.
Voilà, et cette spécificité électorale adoptée en 1982, quelques mois après la loi de décentralisation émanée d'un certain Gaston Defferre, maire de Marseille depuis 1953, mais aussi à l'époque ministre de l'Intérieur. Ce nouveau scrutin va s'appliquer dès les élections municipales de 1983. À Marseille, le découpage est assez habile pour faire gagner Defferre, alors que sur l'ensemble de la ville, Jean-Claude Gaudin a rassemblé plus de voix que lui. Pour avoir une idée de la complexité de la donne, il faut savoir que le plus petit des secteurs rassemble 74 000 habitants, c'est le cœur historique de la ville derrière la mairie, l'équivalent tout de même de la ville de Troyes, alors que le 7e secteur dans les quartiers nord en compte le double, soit la taille de Grenoble. Démocratie oblige, ces 8 secteurs n'envoient pas le même nombre de conseillers à la mairie.
Et ce qui complique un peu plus la tâche des instituts de sondage, Olivier, c'est que ces 8 secteurs sont plus ou moins marqués socialement.
Ben voilà, on va prendre les opposés. L'arrondissement le plus pauvre d'Europe derrière la gare Saint-Charles couvre une partie du 3e secteur. Le 4e secteur au-dessus de la corniche compte lui de nombreuses villas et résidences de luxe avec vue sur mer. Rien à voir donc entre ces deux électorats, vous vous en doutez. Sur l'ensemble de la ville, les derniers sondages indiquent que le Front National est en tête devant les Républicains, eux-mêmes talonnés par le Printemps marseillais qui regroupe tous les partis de gauche. Suivi des Verts, voilà pour les 4 favoris. Mais quand vous faites les projections par secteur, la donne est bouleversée puisque le Rassemblement National ne peut l'emporter qu'en cas de triangulaire ou de quadrangulaire, ce qui n'est pas le cas des autres partis. Bref, à un mois du scrutin, rien n'est joué. Le maire de Marseille ne sortira vraisemblablement pas des urnes au soir du second tour. Faute de majorité, il serait alors désigné par le vote à bulletin secret des 101 nouveaux élus. Et là, Clara, tout est possible, y compris le choix d'un second couteau.
Et nous suivrons tout cela avec vous, Olivier Martoc, depuis Marseille pour France Culture. Merci beaucoup. Je précise aussi que vous avez tourné un reportage sur l'environnement comme thème de campagne à Marseille. Reportage de la rédaction diffusé ce matin à 7h24, à retrouver sur franceculture.fr.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. 14 personnes ont été blessées cette nuit à Jérusalem.
Oui, blessées par une voiture qui a foncé sur la foule en plein centre-ville. La majorité des victimes sont des soldats israéliens, selon l'armée. Elle indique ce matin avoir diligenté une enquête pour attaque terroriste. Un peu plus tard, par ailleurs, un Palestinien a été tué dans des heurts avec l'armée israélienne en Cisjordanie. En Chine, le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus grimpe encore avec un total de 563 morts. À Wuhan, épicentre de l'épidémie, un responsable assure que malgré la construction en urgence d'un hôpital, la ville connaît toujours un sévère manque de lits, d'équipements et de matériel. C'était prévu, c'est désormais acté aux États-Unis. Donald Trump est acquitté. Non, le président américain n'a pas entravé la bonne marche du Congrès. Non, il n'a pas abusé de son pouvoir en demandant des informations à l'Ukraine sur son rival Joe Biden. Le Sénat républicain a tranché. Tous les sénateurs, sauf un, ont voté en faveur de cet acquittement. Compte rendu d'audience avec Isabelle Raymond.
Le résultat du vote ne faisait aucun doute, mais ça y est, Donald Trump est acquitté l'un après l'autre. Et par ordre alphabétique, les sénateurs se lèvent pour dire guilty ou not guilty, coupable ou non coupable, des deux chefs d'accusation, abus de pouvoir et obstruction au Congrès qui pesaient sur le 45e président des États-Unis. À peine, les démocrates ont-ils rallié le sénateur républicain de l'Utah, Mitt Romney.
My vote will likely be in the minority in the Senate.
Avec mon vote, je serai minoritaire au Sénat. Mais malgré cela, je dirai à mes enfants et aux enfants de mes enfants que j'ai fait mon devoir consciencieusement, comme mon pays l'attendait de moi. Pour les Américains des générations à venir, je ne serai qu'un nom parmi ceux qui disent que ce que le président a fait n'est pas bien.
Devant le Capitole, des manifestants brandissent des pancartes sur lesquelles les républicains sont qualifiés de lâches. On n'est pas d'accord avec ce qui vient de se passer dans notre pays et on est très embarrassés, explique cette femme. Femme embarrassée de parler à une étrangère comme vous quand on a un président comme le nôtre. Son acquittement à peine prononcé, Donald Trump a tweeté un montage vidéo dans lequel il apparaît comme un président à vie.
C'était Isabelle Raymond à Washington pour France Culture. Finissons avec cette fossette très marquée sur le menton, reconnaissable sur tous les écrans de cinéma dans les années 50 et 60. La fossette de Kirk Douglas. L'acteur est mort hier soir à l'âge de 103 ans. Il était l'un des derniers grands témoins de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, Gregory Phillips.
La première fois que l'on découvre à l'écran son sourire charmeur et sa fossette au menton, c'est en 1946, l'emprise du crime. Ce fils de chiffonnier juif, né dans l'État de New York et dont les parents ont fui la Russie, a fait ses tout premiers pas à Hollywood au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a passé enrôlé dans la marine. Puis le premier succès vient 3 ans plus tard, Le Champion, avec une première nomination aux Oscars. Ensuite, dans les années 50, Kirk Douglas enchaîne les films qui deviennent des classiques. 20 000 lieues sous les mers, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, Les Vikings en 1958. Cette même année, sur la scène des Oscars, justement, avec Burt Lancaster, il s'amuse du fait de n'avoir jamais reçu de statuette dorée. Mais l'acteur devra attendre 1996 pour recevoir un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il lui est remis par le réalisateur Steven Spielberg.
Merci. Je vois mes 4 fils. Ils sont fiers du vieil homme.
Hier soir, le fils de Kirk Douglas, Michael, lui rendait hommage dans un communiqué. « Pour le monde entier, tu étais une légende, un acteur de l'âge du cinéma. Mais pour nous, tu étais simplement papa. »
Et vous pouvez retrouver sur notre site internet franceculture.fr ce matin les 6 films dans lesquels Kirk Douglas avait joué, les 6 plus grands films évidemment. Le temps de ce jeudi en France métropolitaine, il sera sec, majoritairement ensoleillé, comptez ce matin 2 à 3 degrés au nord de la Loire, 4 à 11 au sud.